Liberté des idées aujourd'hui, quelle égalité de la parole en démocratie? On en parle avec notre invité, le philosophe Jacques Rancière, professeur émérite à l'Université Paris 8. Depuis 1975 et la parole ouvrière, il travaille sur le postulat de l'égalité des intelligences, réflexion réunie dans Le Maître ignorant, paru en 1987. Au cœur de sa pensée, le principe d'égalité et une attention toute particulière portée au partage du savoir et à la parole des sans-part, ceux qui n'ont pas voix au débat, tout en interrogeant les notions de peuple et de démocratie. Auteur à la Fabrique l'an passé de « En quel temps vivons-nous ?», Jacques Rancière est donc notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Rancière, que dit le mouvement du temps dans lequel nous vivons? Je me permets un emprunt au titre de votre dernier essai.
Ce qu'il en dit, d'abord, c'est précisément, je dirais, que le temps n'est pas une réalité linéaire. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est qu'on ne vit pas dans un seul temps. Et bien qu'il y ait, disons, cette doctrine officielle, à savoir que bon, il y a une évolution historique, et on voit bien qu'actuellement, on nous presse de tous côtés, enfin, du moins, du côté en tout cas de ceux qui nous dominent, et de ceux qui, disons, on exprime la pensée, d'adhérer à un temps, qui est le temps justement qui va tout droit, qui est le temps du développement, le temps, disons, du triomphe du marché mondial dans lequel ben, on se libère de toutes les vieilleries quoi. Donc pendant des années on voit bien que on a eu cette espèce de temps dans lequel ben, il fallait liquider tout ce qui était un peu ancien. Tout ce qui était ancien, bien sûr, c'était bon, les services publics, les formes de protection sociale, les formes de solidarité, voilà, tout ça quoi. Et puis bon, justement, il apparaît que il y a comme une espèce de, je dirais, de désynchronisation au sein de ce temps, parce que malgré tout ce temps officiel, il semblait reposer sur un temps des gens qui sont un peu toujours d'accord, justement. Bon, ces gens qui ne sont pas, disons, les intellectuels, qui ne sont pas les ouvriers d'usine, qui ne sont pas les catégories sociales qui normalement protestent, quoi. Ils ne sont même pas vraiment un groupe social, quoi. Donc, et puis voilà, il se trouve que précisément, il y a une espèce de nébuleuse qu'on a du mal à qualifier sociologiquement, pour autant qu'on veuille la qualifier sociologiquement. Et puis il y a une nébuleuse de gens qui sont censés être les gens un peu toujours d'accord, les gens qui suivent toujours, quoi. Et puis justement, ils ne suivent pas. Il y a une forme d'interruption. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, s'il y a un temps de la politique, c'est un temps qui est comme scandé par des interruptions. Et je crois qu'on est effectivement dans une espèce de forme d'interruption où, au fond, les gens qui normalement, disons, suivent, les gens qui normalement, précisément, sont à l'heure, quoi, tout d'un coup ne sont plus à l'heure officielle.
Alors vous pointez souvent, Jacques Rancière, pour la dénoncer aussi, la posture de l'intellectuel, la posture du sachant. Vous n'êtes pas ici avec nous aujourd'hui pour devenir le porte-parole de ce mouvement des Gilets jaunes. Néanmoins, vous êtes philosophe, vous portez une attention toute particulière depuis des années à cette question de la formation et de la formulation de la parole populaire notamment. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, particulièrement dans ce qui se joue aujourd'hui et notamment dans ce que produit ce mouvement, à savoir peut-être tout simplement de la politique?
Oui, je crois que il faut renverser la position actuelle, la position habituelle plutôt, où justement on demande à des gens qui sont supposés intellectuels d'expliquer ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire au fond de mettre de l'ordre dans le désordre ambiant, quoi, et pour rassurer tout le monde, ou du moins pour rassurer ceux qui gouvernent le monde. Or, je pense, et c'est comme ça que vous avez démarré, j'en ai été content, que le problème n'est pas ce qu'on pense pour donner des raisons à ce qui se passe, mais au contraire, précisément, on essaye de dire ce que ce mouvement nous dit, ce qui se passe nous dit, quoi. Et bon, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a là une prise de parole qui n'est pas la prise de parole des locuteurs habituels, quoi. Bon, il y a des gens qui sont normalement là pour prendre la parole, il y a des gens dont on sait qu'ils prennent toujours la parole, bon, éventuellement, on les écoute un peu d'un air un peu lassé, quoi. Bon, les gens qui donnent, disons, les positions officielles de jeu de ceux qui sont du côté du peuple, du côté de la gauche, du côté de l'émancipation, que sais-je, quoi. Bon, on les écoute, mais on les fait venir. Et puis bon, ça va, mais on sait que ça change rien, quoi. Ce qui change quelque chose, c'est que précisément, c'est que lorsque se mettent à parler des gens dont la parole n'est pas connue d'avance, qu'on ne peut pas d'avance assigner justement à une position sociale, à une idéologie spécifique, quoi. Et bon, voilà, des gens qui, on peut dire, créent une scène de parole, parce que bon, ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est que peut-être la politique, ça consiste à créer des scènes de parole, où pas simplement il y a des gens qui parlent pas d'habitude, qui se mettent à parler, mais aussi ils parlent pas de la manière dont on s'attend à ce qu'ils parlent.
Et Cette parole, en tout cas, vous l'évoquez, Jacques Rancière, elle a émergé. Elle était plutôt absente de l'espace public ou inaudible jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des mots qui ont retenu votre attention?
Bon, il y a tellement de mots qui ont retenu qui peuvent retenir l'attention. Il y a quand même un mot qui a circulé beaucoup, quand même, qui est le mot inégalité, quoi. À savoir, bon, que précisément, on peut dire un mouvement qui est censé être au départ une affaire de prix de l'essence, quoi, très rapidement, mais au centre. Malgré tout de ces énonciations, quoi, et de ces préoccupations, bon, un mot, tout un ensemble, toute une constellation de mots qui tournent autour de la question de l'inégalité, enfin, de la manière même dont l'inégalité structure nos sociétés.
Inégal, inégaux, plutôt, devant quoi ou devant qui?
Bah, inégaux, il y a plusieurs niveaux. On peut dire inégaux devant la fiscalité, parce que bon, on sait bien que dans cette affaire, il y a la question de, disons que, bah, bien sûr, nous sommes dans une logique dite néolibérale où il s'agit de supprimer les impôts, quoi. Mais bien sûr, les impôts qu'on supprime, ce sont surtout, comme malgré tout, effectivement, on le sait, l'impôt sur la fortune, disons, on peut dire, bon, pour le dire vite, bon, ceux qui pèsent malgré tout sur les plus riches, quoi. Et en revanche, effectivement, il y a ces impôts qui eux, ne sont pas supprimés, mais au contraire, quelquefois qu'on veut augmenter comme la circonstance et qui pèse bon sur cela. Donc on peut dire d'abord inégalité fiscale, mais on voit bien que derrière inégalité fiscale il y a quelque chose comme le sentiment d'une une sorte de au fond de devenir de plus en plus inégal notre société en général, quoi. Bon, pour des gens de ma génération, bien sûr, on peut dire que oui, on a vécu dans un monde où il y avait un certain nombre de choses qui paraissaient normales, qui étaient dues, bon, effectivement, des transports publics gratuits, qui marchaient, en tout cas payés par l'argent public. Bon, et puis toute une série de choses, disons, qui étaient une espèce de patrimoine commun. Bon, ça pouvait être la poste, ça pouvait être le téléphone, ça pouvait être les hôpitaux. Voilà, on avait l'impression de vivre quand même dans un monde qui était structuré par de l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité n'était pas simplement une espèce de mot d'ordre bon, inscrit sur les frontons, mais que ça concernait les formes de vie, quoi. Alors, il est bien évident que c'est cette espèce d'égalité en quelque sorte ressentie dans la vie ordinaire qui petit à petit bon, s'est effritée. Et je crois qu'il y a quelque chose effectivement là qui est ressenti, à savoir justement que c'est égalité et inégalité sont comme des espèces de partage. Une société vit, on peut dire, selon la norme de l'égalité ou selon la norme de l'inégalité. Bon, toutes les politiques officielles, bon, celles qui sont, on peut dire, dictées par les puissances financières internationales, bah, nous demandent d'avoir un monde de plus en plus structuré par l'inégalité. Et bon, là, il y a quelque chose, effectivement, un point justement où on pense avoir vaincu tous ceux qui a représenté ou incarné un peu la cause de l'égalité dans l'ancien temps, bon, mouvement ouvrier, que sais-je. Et puis tout d'un coup, là, voilà, la chose ressort, et ressort différemment.
C'est une notion que vous avez développée il y a longtemps, Jacques Rancière, celle des sans-pares. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, les Gilets jaunes sont pour vous une figure des sans-pares?
Alors, sur la question des sans-pares, je crois qu'il faut être un peu précis, c'est-à-dire que lorsque j'ai dit que au score de la politique il y avait la part des sans-pares, l'action des sans-pares, ça ne veut pas dire l'action des hérités, des malheureux, c'est-à-dire que bon, mais l'action de ceux qui incarnent de ceux qui incarnent justement ceux qui n'ont pas de part aux décisions, qui n'ont pas de part au pouvoir. Donc voilà, les sans-pares, bon, si on peut dire les gilets jaunes si on veut, c'est les sans-pares, mais pas au sens où c'est les damnés de la terre qui tout d'un coup, parce qu'ils peuvent plus supporter leurs conditions, se mettent à parler, quoi. Non, dans une certaine façon, ils créent une certaine forme de subjectivation, d'incarnation justement de ceux qui ne sont pas comptés, de ceux qui n'ont pas droit à la parole. Mais encore une fois, je veux dire qu'il faut pas le penser comme si bon, il y avait voilà, il y a des sans-pares, ils sont là, c'est une masse, puis tout d'un coup il y a leur cri qui explose. Non, bon, il faut qu'il y ait des gens, on peut dire qui s'organisent d'une certaine manière, même si c'est plus la manière des organisation politique syndicale à l'ancienne, pour justement créer une scène de parole, quoi. Donc les sans-pares, c'est quand même d'abord des sujets politiques, quoi, et pas des pauvres malheureux, quoi.
De la même manière qu'il n'y a pas un peuple électoral, et vous l'avez souvent rappelé, Jacques Rancière, les Gilets jaunes ne forment pas un mouvement homogène et ne portent pas une parole monolithique clairement énoncée. D'ailleurs, comment l'énoncer? Je vous propose un retour sur parole.
Ils ne parlent pas des handicapés, comme moi, comme tant d'autres, des amis à moi.
Un tout petit peu, mais bon.
Oui.
Parce que vous touchez l'allocation
850 euros par mois, ouais. Après 41 ans de cotisation à la sécurité sociale quand même. Il faut le dire.
On a l'impression que vous ne lui avez pas donné sa chance au président. Vous l'avez finalement peu écouté.
Non, on ne peut plus l'écouter. C'est un guignol.
Oui, voilà. Fabienne, cette réaction, j'ai envie de vous dire, elle était presque prévisible.
Ah oui.
Le discours d'Emmanuel Macron, il n'a pas changé grand-chose. Je vous épargne les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'il vous faut, Papy Domi, qu'est-ce que Emmanuel Macron doit faire pour que vous partiez ici de ce rond-point?
On ne partira pas tant qu'on n'aura rien de concret.
Quoi? Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qu'il vous faut?
C'est 100 euros par mois, vous vous rendez compte, pour les gens qui travaillent. Bon, moi, je
Pardonnez-moi ma question concrète, mais pour combien d'euros en plus vous partez du rond-point?
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui se greffent derrière toutes ces taxes, On n'aura jamais assez. Si on nous donne 1 700, il va nous augmenter le carburant de 30-40%. Et tant d'autres choses, le pain, tout.
On n'aura jamais assez, je crois que c'est les mots qui peuvent conclure cette intervention, on n'aura jamais assez, Fabien.
Voilà, c'était chez nos confrères de France Inter, le soir des annonces d'Emmanuel Macron, donc lundi, tentative de compréhension et d'analyse par les journalistes de la réception qui a été faite de ce discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous sentez à travers cet exercice médiatique aussi, ce que vous pointez, Jacques, c'est-à-dire toute la difficulté qu'il y a à recueillir cette parole à laquelle on est peu habitué et à la prendre au sérieux?
Oui, c'est-à-dire que, bon, disons, la parole des journalistes, en l'occurrence, est effectivement ancrée dans une espèce de scène officielle du donner la parole, quoi, qui elle-même est liée, bon, un petit peu à notre scène qui est celle des négociations gouvernementales, quoi. Donc, effectivement, ils demandent à partir de combien est-ce que vous quittez le rond-point, quoi. Mais je dirais que c'est absurde, d'une certaine façon, de mon point de vue, comme question, parce que, d'ailleurs, la réponse est très bien, c'est-à-dire, de toute façon, ça ne se chiffre pas. Bon, la question de l'égalité, de l'inégalité, précisément ne se chiffre pas. Et bien sûr, nos gouvernements suivent une espèce de logique, il y a des partenaires sociaux, on discute avec eux, voilà, on s'arrange, on voit ce qu'il faut donner aux uns, ce qu'il faut donner aux autres, quoi. Ça, c'est un petit peu la logique gouvernementale, et en l'occurrence, la logique donc, de l'information suit un peu ça, quoi. Or, précisément, la réponse sur laquelle on tombe, qui est tout à fait évidente, c'est que précisément, on n'est plus dans le chiffrable, on n'est plus dans le négociable. Et au fond, on peut dire qu'il y a de la politique, et à partir du moment, il y a toujours quelque chose qui est du non négociable. C'est-à-dire où, précisément, il ne s'agit pas de dire, voilà, si vous nous donnez ça, nous on fera ça. Parce que, précisément, les gens qui sont là, ce n'est pas des partenaires reconnus qui avancent leur pion, quoi. C'est des gens qui, tout d'un coup, finalement, ont le sentiment qu'il y a un intolérable, et que cet intolérable, ce n'est pas simplement une affaire de combien d'euros on va mettre d'un côté ou bien d'un autre, quoi. Donc il y a quelque chose effectivement comme un au-delà. Alors évidemment après ça, cet au-delà, c'est la grande question, quoi.
Alors on sent la tentative, ou en tout cas l'envie d'essayer de comprendre ce que sont les revendications des Gilets jaunes et de savoir si le pouvoir en place, l'exécutif, le président en l'espèce, y a répondu à travers ces annonces. En 95, au moment des grandes grèves en France, Bourdieu évoquait la parole des cheminots et la manière dont elle était recueillie, en pointant lui aussi le dispositif médiatique et la mise en scène. Écoutez, c'était devant la caméra d'Arrêt sur Image.
La personne interrogée est invitée à parler. En fait, elle est sur la sellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Là, il y a une sommation à comparaître. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons ces questions. On met M. Perfitte à la place de ce représentant de FO. Est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada. Dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser, soyez précisé. Quelle réforme proposez-vous? Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Je l'ai accepté.
Pierre Bourdieu, il y a plus de 20 ans, Jacques Rancière, est-ce que cette inadéquation vaut encore, selon vous, aujourd'hui?
Oui, alors il y a plusieurs manières de penser l'inadéquation. On peut penser qu'on n'est plus dans une société où les gens sont incapables, si vous voulez, où il y aurait comme une espèce d'inégalité structurelle, bon, parce que malgré tout, de plus en plus de gens se sont donné, je veux dire, les moyens de répondre à des questions, de répondre à des situations de parole. Bon, cela dit, le fond du problème, je pense, n'est pas simplement l'aisance ou l'absence d'aisance de gens devant un dispositif. C'est fondamentalement, encore une fois, de savoir... Comment on peut formuler ce qui est au-delà des choses simplement, facilement négociables. Et c'est ça un petit peu la question. Bon, effectivement, on a dénombré 42 revendications des Gilets jaunes, quoi. Dont beaucoup viennent d'horizons différents, finalement ont des significations, éventuellement des implications politiques très très différentes. Un certain nombre probablement sont absolument incohérentes, parce que n'importe quel gouvernant dira mais vous voulez ça, ça, ça et ça, et vous voulez en même temps qu'on vous diminue le prix de l'essence, mais c'est pas possible, ça colle pas, quoi. Bien sûr, parce que...
On sait même pas qui a rédigé cette charte de revendications, précisément.
Non, on le sait même pas, mais ça veut dire que c'est un peu toutes les choses qui circulent tout à coup. Bon, c'est pas un programme, bien évidemment, mais c'est comme une espèce d'inventaire de toutes les manières dans lesquelles précisément cette espèce d'inégalisation croissante du monde s'exerce.
Alors qu'à l'époque, en 95, au moment de la grève et des mouvements de cheminots, les revendications étaient beaucoup plus claires et du coup, la réponse politique pouvait l'être à son tour. Je vous propose d'écouter encore une voix, c'est celle d'Emmanuel Macron, tentant d'apporter une réponse à la contestation en cours. C'était donc lundi soir lors de son allocution télévisée.
Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie, je ne la tire que de vous, de nul autre.
Alors deux choses avant d'en venir à la question de la légitimité, Jacques Rancière, l'émotion qui a pu se dégager de cette séquence, émotion non perçue par certains ou mal perçue, estimant que Emmanuel Macron était dans une posture de comédien, d'autres la trouvant plus ou moins sincère. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'aujourd'hui pour vous, Jacques Rancière, la compréhension passe aussi par cette mobilisation des affects, par l'émotion, par l'envie d'aller chercher les gens, de leur parler aux tripes?
Je ne pourrai pas vous répondre parce qu'il faudrait que je vous réponde sur les intentions, les arrière-pensées de M. Macron. Je n'en ai aucun moyen de le faire. Effectivement, on peut dire il y a de l'émotion. Bah, on peut dire oui, tout ça est une affaire de communication. Bon, effectivement, on lui a dit à un moment donné, vous avez quand même comme ça un profil comme ça, un peu dur, un peu technocrate, un peu bureaucrate, il faut parler aux gens. Bon, mais il y a toujours un moment, disons, dans la vie des politiciens, où effectivement on leur dit, ils se disent, bon, il faut être un peu plus près des gens, il faut être un peu plus humain, un peu plus, dans l'affect. Peut-être, je ne sais pas, moi je n'ai aucun jugement sur ce qu'il y a dans la tête de M. Macron, mais fondamentalement, pour que de toute façon ça soit autre chose qu'une espèce de comédie, quoi, il faut que, justement, malgré tout ça, nos gouvernants prennent la mesure de ce qui se passe dans de tels événements. Ce qui se passe dans de tels événements, c'est comme une espèce précisément de rencontre entre des logiques qui sont complètement hétérogènes, quoi. Bon, ils ont leur plan, ils ont un petit peu la manière dont il faut adapter le pays aux exigences du marché mondial, aux exigences de l'Union européenne, ils ont cette espèce de feuille de route, on essaye de naviguer un peu à vue, quoi, finalement en suivant cet agenda ni néolibéral, tout en faisant qu'il n'y ait pas trop de vagues, quoi. Voilà. D'un autre côté, il y a effectivement cette vague qui apparaît, on peut dire, sans programme politique sur lequel on puisse négocier. Voilà, alors, qui pose comme une espèce de... en vrac, comme une espèce de tout un peu, du monde dans lequel on vit, du temps précisément dans lequel on vit, ça. Alors ça, je veux dire que, d'une certaine façon, l'exercice du gouvernement rend incapable de répondre à ce genre de demande, quoi. Donc ça, à un sens, la politique, j'ai toujours essayé de dire, c'est des gens qui, à un sens, ne se comprennent pas, ne peuvent pas se comprendre, quoi. Et au fond, la question est de savoir comment on se met à la mesure ou à la hauteur de ce type de situation où on est plus précisément dans le rapport contractuel, dans le rapport de la conversation ou de la négociation polie.
Oui, c'est un pas, c'est presque une donnée de base en fait, cette incompréhension.
C'est un peu une donnée de base. Bon, effectivement, on essaye d'en prendre la mesure où on se dit que ça passera, parce qu'on pourrait dire, bon, après tout, ça passe. Hein, bon, 95, c'est passé, disons, là. Le mouvement contre le CPE s'est passé, le mouvement contre la loi travail s'est passé, bon, et finalement, bon, tout ça se résout, enfin, ça c'est la logique officielle un peu, tout ça se résout un jour ou l'autre, bon, sous la forme d'une traduction tout à fait, disons, hypothétique, en termes de voix qu'on va donner en plus ou en moins à tel ou tel des partis qui sont les spécialistes de l'action gouvernementale.
Ma légitimité, je ne l'attire d'aucun titre, dit Emmanuel Macron, je ne l'attire que de vous, de nul autre. Cette légitimité, c'est pourtant elle qui est remise en question par la rue depuis quelques semaines, Jacques Rancière, alors qu'Emmanuel Macron est bien le résultat des urnes. Qu'est-ce qui manque ou que manque à cette légitimité dont il se prévaut pour qu'elle prenne corps, pour qu'elle s'impose dans les faits et dans la durée?
Bon, mais je pense que lorsqu'il parle de légitimité, bon, ce qu'il veut parler, c'est pas simplement du fait que, bon, il a eu une majorité électorale qui, de toute façon, est en général, est toujours une minorité, finalement, par rapport à l'ensemble de la population d'un pays, mais que, voilà, il a le sentiment d'être comme une espèce un peu en face, quoi, en face avec la nation. Bon, effectivement, je dirais ça. Nos gouvernants jouent toujours sur ce double registre. Pas simplement j'ai été élu, bon, parce qu'ils savent que très souvent ils sont élus finalement avec une minorité, par les minorités finalement d'une nation, quoi. Mais aussi je vous ai compris, je suis en phase avec vous. Et alors là, effectivement, je dirais que bon, on dit, il peut le dire, mais en même temps, le monde dont il traduit la logique est, bon, est tellement spécifique, si vous voulez. C'est quand même tellement le monde d'une petite minorité, malgré tout des possédants et des gouvernants, que voilà, il y a quelque chose qui probablement ne passera jamais, quels que soient, disons, les effets de main sur le cœur.
Mais alors, enfin, c'est un peu que faire, parce que beaucoup se sentent pas représentés aujourd'hui, mais aussi imparfait soit-il, Jacques Rancière, ce système représentatif reste un des piliers de nos démocraties. Est-ce qu'on peut imaginer le corriger? Est-ce qu'il faut rêver l'envoyer balader? Et alors, dans ces cas-là, par quoi le remplacer?
Bon, alors, moi, je propose pas les solutions. J'essaie de dire à quoi les choses nous font penser, hein, ce qui est un peu différent, quoi. Alors, bon, cela dit, je ne serais pas d'accord avec votre formulation que le système représentatif est un des piliers de la démocratie. Le système représentatif est un des piliers du monde dans lequel nous vivons, et un monde dans lequel, effectivement, il y a possibilité que des mouvements démocratiques s'expriment, ce qui n'est pas du tout la même chose. En son essence, la représentation, ce n'est pas la démocratie, c'est le contraire. La représentation, ce n'est pas simplement le fait que... Voilà, on élit des gens, c'est le fait qu'il y a une catégorie de gens qui sont censés capables, et seuls capables, font de gérer les intérêts de la communauté. Donc, voilà, je dirais que malgré tout, si pour qu'il y ait démocratie, il faut précisément qu'il y ait autre chose que ce système représentatif, parce que bon, des élections, des gens élus, il y en a un peu partout, bon, y compris dans les, disons, dans les pays les plus autoritaires, et on voit bien aujourd'hui que, bon, le fait d'être finalement là au pouvoir parce qu'il y a eu tant de voix dans des élections n'a pas grand chose à faire avec l'exercice de la démocratie. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout dépend à qui on pose la question, je dirais, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas très bien, parce que...
qu'est-ce que peut être cette autre chose, et à qui revient-il de le définir?
Alors, cette autre chose, ça peut être effectivement des formes de ce pouvoir de l'interruption qui, bon, qui advient ici et là, quoi, et les formes dans lesquelles il est capable de se donner une durée, quoi. C'est un peu ça qui est toujours le problème, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a de la politique que par justement l'interruption du temps normal de l'exercice du gouvernement, du temps normal du fonctionnement social, quoi. Et bon, il y a eu des occurrences historiques dans lesquelles on peut dire que voilà, il y a eu des idéaux ou bien des forces sociales qui ont fait que il y a eu comme une espèce de stabilisation, on peut dire, une forme d'institutionnalisation. Bon, la République, à un moment donné, ça a signifié quelque chose comme une espèce de consistance donnée, quoi. Ah, ces moments d'interruption, bon, le mouvement ouvrier, bon, ça signifie aussi, à un moment donné, quelque chose chose comme une consistance de cet ordre, c'est-à-dire que au fond, l'existence d'une sorte de mouvement qui crée un peuple, qui est un peuple alternatif par rapport à celui qui est simplement représenté, disons, incorporé dans le fonctionnement de l'État, quoi. Et alors, on peut dire toujours que, idéalement, ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, mais ça ne sert pas à grand-chose de dire ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, c'est la capacité d'inventer des formes d'existence, d'existence dans la durée de ce peuple solidaire et égalitaire qui se déclare comme ça, qui agit de temps en temps, une révolte étudiante, un grand mouvement pour la défense des retraites, un grand mouvement contre une loi travail qui veut justement supprimer un peu le travail comme une espèce de réalité collective, disons, partagée. Et voilà, alors, si c'était facile à faire, ça serait déjà fait. Enfin, on est un peu dans la porie, quoi. Bon, parce que à chaque fois on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, et puis de toute façon toutes les révolutions ont échoué, ont mal terminé. Alors on peut dire oui, d'accord. Mais de fait, il continue malgré toute la tristesse de toutes les révolutions échouées, de tous les mouvements un peu évanouis, quoi. Bon, il reste toujours une insistance sur la nécessité qu'il y ait des interruptions, qu'il y ait des ruptures, qu'il se crée des formes d'expression d'un peuple qui soit alternatif par rapport à celui qui est simplement incorporé dans l'État et légitimé par l'exercice électoral.
La contestation n'est pas stérile. Elle crée aussi ce mouvement et elle ravive d'une certaine manière les contours de la discussion démocratique. Alors depuis quelques jours, on entend certains estimer qu'il faudrait que des gilets jaunes s'engagent en politique, qu'ils composent une liste en vue de l'élection européenne de mars prochain. Alors c'est toujours remettre l'échéance électorale comme étant une barrière du temps que vous veniez d'évoquer, ça ne le dilate pas. Et puis il y a un autre souhait qui revient régulièrement, celui d'un référendum.
Déjà on dissout le Sénat. Et à la place du Sénat, on constitue une assemblée citoyenne, mais une vraie assemblée citoyenne en contact avec réellement l'Assemblée nationale.
On va recevoir de nouveaux invités. Alors merci beaucoup Laetitia Deoal et les Gilets jaunes. Et on va aller en voir.
J'ai juste envie de dire quelque chose avant de partir.
En amont, référendum.
Si le président de la République est sûr que sa politique est la bonne, qu'il ait le courage de la présenter aux Français par un référendum, par la voie référendaire, dans le respect des institutions.
Et de la démocratie.
Banco, et
dans
de la démocratie.
Et on va en parler des institutions. C'est de la réforme constitutionnelle qu'il faudra discuter, y compris de la démocratie.
Merci Benjamin Cauchy, merci Nicolas Bay, Bruno Retailleau et Laetitia Deoal. Nous allons donc accueillir dans un instant d'autres invités.
Alors voilà une proposition concrète de refonte de la démocratie.
Bon, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Je crois que évidemment la vitalité de la démocratie, c'est d'abord quand même la capacité de constitution d'un peuple démocratique qui soit autonome par rapport aux institutions de l'institution de l'État, aux institutions représentatives. Et donc là, c'est clair qu'en un sens, qu'aucune réforme de ce fonctionnement ne pourra jamais satisfaire. Alors bon, il y a des choses qui reviennent. Bon, j'avais lancé il y a quelques années, et les gens ils ont ouvert un peu des grands yeux. Bon, j'avais le relancé. Cette idée, du tirage au sort, d'une assemblée qui serait tirée au sort, c'est-à-dire d'une assemblée qui ne serait pas constituée justement par les professionnels de la gestion de l'État. Bon, alors bon, c'est des choses que je dirais qu'on peut toujours évoquer. Bon, référendum, c'est des choses qui sont complètement à double tranchant, parce que bon, le référendum ça a été, on le sait, l'arme de pouvoir autoritaire, précisément pour créer quelque chose qui a un rapport direct de l'incarnation, du chef de l'État par rapport à l'ensemble de la population. Donc un référendum dans lequel Emmanuel Macron en quelque sorte scellerait son union avec le peuple de France, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
C'est peut-être plus le plébiscite que le référendum, mais là ça fait référence, oui. Souvent on fait référence au fameux modèle suisse.
Bien sûr, on fait référence au modèle suisse. Bon, il faut se souvenir en même temps que la dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, il y a eu une réponse, et que bon, disons, là, nos gouvernants n'ont pas tenu compte de cette réponse. Il faut se souvenir que également il y a eu un référendum qui a été fait il y a quelques années en Grèce par rapport, disons, aux exigences de la Troïka, et que, bon, pareillement, le gouvernement de gauche, de la gauche qui était au pouvoir, n'a pas tenu compte non plus de ce référendum. Donc voilà, encore une fois, bon, on peut toujours dire, voilà, il y a des solutions institutionnelles. Ces solutions institutionnelles n'ont de sens que dans la mesure où il y a des forces qui sont capables véritablement, d'empêcher qu'elles soient simplement un rouage de plus dans un système qui tourne sur lui-même, quoi.
C'est pas évident de comprendre comment sortir de cette opposition, hein, aussi, comment élaborer aujourd'hui un projet commun, ce que vous évoquiez, un projet d'avenir qui ne voit pas toujours, pas plus loin que la prochaine échéance électorale. C'est comment retrouver des espaces de dialogue et de discussion.
Alors là, c'est vraiment pas à moi de le dire. Enfin, je veux dire que bon, il y a eu effectivement un certain nombre de mouvements qui, bon, disons au cours du dernier demi-siècle, et pour être plus près, disons au cours malgré tout des premières années du 21e siècle, voilà, à un moment donné, créé quelque chose comme des dynamiques communes. Bon, il y a eu tous ces mouvements qu'il y a eu sur les places dans un certain nombre de villes. Il y a eu ici le mouvement contre la loi travail. Bon, il y a aujourd'hui ce mouvement des gilets jaunes qui beaucoup plus difficile à identifier. Je crois que c'est à partir vraiment de ce qui se passe là qu'on peut penser un avenir. C'est-à-dire, ça sert à rien de dire voilà ce qu'il faudrait avec tel et tel type d'institution, avec tel et tel type de programme, ça marcherait. Finalement, ce genre de programmation, justement, ne marche jamais. Alors, pour moi, le fond du problème, c'est la question de la manière dont on appréhende ce genre de mouvement. Parce que précisément, on demande toujours aux gens, bon, comme tout à l'heure les journalistes dans un extrait qu'on a entendu, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Et justement, il n'y a pas de définition d'un qu'est-ce qu'on veut finalement. Bon, il y a une époque, ça s'appelait la Révolution, bon, ça c'était clair, il y avait une espèce d'horizon historique. Bon, maintenant ça n'existe plus, ça veut dire que justement il y a comme une espèce d'excès par rapport à tout ensemble de revendications qu'on pourrait énoncer, et cet excès, il n'est pas véritablement mesurable. Donc j'ai toujours essayé de dire par rapport à l'histoire de l'émancipation, quoi, l'émancipation c'est pas simplement quelque chose qui prévoit un futur, c'est quelque chose qui se vit dans le moment. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le désir, pas simplement de prévoir des institutions plus égalitaires, mais de vivre dans un monde qui est plus égalitaire. Et ça, c'est quelque chose qui se passe pas par des programmations, mais qui se passe dans la dynamique même des mouvements. Ça veut dire que peut-être il y a pas, disons, la solution. Il y a, disons, des espèces d'émergences qui reviennent tout le temps de l'égalité, pas seulement de revendication d'égalité, mais de manière de vivre égalitaire, quoi. Et puis voilà, je dirais que il faut bien penser que les gens n'ont qu'une vie, quoi, et que avoir vécu des moments égalitaires de ce type, c'est quelque chose qui est important pour les gens, quoi. Bon, y compris aujourd'hui pour ceux qui sont autour des ronds-points comme ça, qui font leur petite barricade, qui vous font circuler autour, qui vous parlent en général poliment, voilà. Donc, ils vivent un petit peu quelque chose. Bon, c'est un peu bizarre, mais il y a quelque chose quand même de la tradition 68, tradition des mouvements des places, qui se joue là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on gagne tous les jours, une capacité qu'on gagne tous les jours, et qui n'est pas non plus traductible en termes de revendications qu'on va faire triompher, ou en termes de point d'arrivée du mouvement.
Quelque chose de l'ordre du partage aussi. Un mot juste pour terminer de votre compagne de route, Jacques Rancière, la littérature, pensée comme moyen d'émancipation à la fois politique et intellectuelle, elle semble aussi avoir un peu du mal à faire entendre sa voix aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de lire pour comprendre ce qui se joue? Vous avez eu des envies de relecture, vous?
Non, vraiment, je ne saurais pas... je ne saurais pas à vous dire. On pourrait vous dire relisez Tchekhov, par exemple.
c'est une
façon de penser comment ce qui ne bouge pas bouge, ou peut bouger.
Merci beaucoup Jacques Rancière d'être passé autour de cette grande table. Un grand merci aussi à toute l'équipe, à Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table idée, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jean Frédérix. Très bel après-midi à tous sur France Culture, et je vous dis à demain.